Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Si Paris est la capitale mondiale de la mode et que la France a longtemps compté sur son territoire des régions fleurons de l'industrie textile, 70% de la production vendue aujourd'hui en France vient d'Asie du Sud-Est. La fast fashion, traduisée par mode express, jetable, et la mondialisation économique ont bouleversé la donne et généré des dégâts sociaux et environnementaux non négligeables. La mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Chaque année, 140 milliards de vêtements sont produits dans le monde, 4 fois plus qu'en 1980. Et les conditions de travail sont souvent dénoncées. De la mode jetable à la mode éthique et équitable, comment sortir du cercle vicieux? Comment réinventer la mode et notre façon de la consommer? Doit-on renouer avec des solutions ancestrales? Réponse aujourd'hui avec Majdouline Zbahi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste dans l'environnement, organisatrice du Forum national de la mode circulaire et auteure du livre « Une mode éthique est-elle possible ?», un livre édité aux éditions Rue de l'Échiquier. À vos côtés, Dominique Cardon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste des techniques traditionnelles de production textile et de teinture. Et par téléphone avec nous également, David Santandreux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître teinturier dans l'Hérault, à Courgnoux-les-Grottes. Comment ne plus être victime de la mode? Eh bien, c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui dans cette émission, en partenariat avec la rédaction des pages Planète Science du journal Le Monde, préparée par Anne Morales, avec Anne Gouzon, Valérie Arnoux, Caroline Chausset, Vanessa Chang, toujours réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Alexandre Dang. Bonjour à tous et bienvenue.
Si je peux éviter les made in China, j'évite, par peur des teintures, des mauvaises teintures, des choses comme ça. Mais bon, on n'a pas toujours le choix, donc ça peut m'arriver d'en prendre.
Alors, j'ai acheté un caban cet hiver, breton, voilà, la marque, je ne dois pas le dire, mais ouais, je fais gaffe.
Pour autant, faut-il boycotter les vêtements fabriqués en Asie, a fortiori au Bangladesh?
Ça reviendrait à infliger une double peine à ces travailleurs, à 4 millions de travailleurs qui ont besoin de l'industrie du textile pour vivre. Donc l'idée, c'est plutôt de faire pression sur les marques, sur les donneurs d'ordre, qui, eux, ont toutes les clés en main pour pouvoir faire évoluer des conditions de production et donc des conditions de travail des travailleurs en bout de chaîne.
Gap, Zara, Benetton, H&M, toutes les multinationales du textile pourraient donner le choix aux consommateurs.
Il serait aujourd'hui possible de faire un t-shirt à 5 euros de façon éthique quand on est H&M. Et on pourrait ainsi avoir le choix entre « j'ai pas beaucoup d'argent, je vais m'acheter un t-shirt, soit je le prends éthique, soit je le prends pas éthique ». Mais aujourd'hui, ce choix n'existe pas.
C'était un reportage diffusé sur France 3 le 24 avril 2015. 2 ans après la catastrophe d'Urana, on va en parler dans un instant, a-t-on seulement le choix, sans être obligé d'aller dans les quartiers branchés, donc de payer parfois cher le produit recherché? Majdouline Zbahi, ce 24 avril 2013, cette usine donc textile d'Urana Plaza à Dhaka au Bangladesh s'effondre, fait 1200 morts. Et c'est un événement marquant, un déclencheur pour vous, je crois.
Oui, c'est un déclencheur, comme je pense beaucoup de citoyens, et même c'est un événement qui a touché le monde entier, où a été révélée en fait la réalité des conséquences de nos choix de production de produits de mode et d'habillement, et de nos choix de consommation. Puisqu'au travers de cette catastrophe qui a tué plus d'un millier de personnes, on a analysé, on a expliqué finalement comment fonctionnait aujourd'hui l'industrie de la mode. Qu'elle cherchait effectivement le moins cher, le plus rapide, quelles que soient les conditions de travail, quelle que soit la façon dont on réalisait les produits. Et donc, forcément, ça m'a interrogée sur ma propre histoire, puisque on a arrêté de produire du textile, en tout cas une grande partie de l'industrie manufacturière textile qui existait dans ma région, le Nord-Pas-de-Calais, a été sous-traitée ou délocalisée en Asie du Sud-Est. Et finalement, des dizaines de milliers de personnes ont perdu des emplois dans le Nord-Pas-de-Calais pour créer une réalité, celle qu'on a vue surgir pendant la catastrophe du Rana Plaza, pour créer une réalité terrible de travail pour d'autres personnes.
Donc cette situation dans votre ville natale, finalement, vous l'avez ressentie et ça a déterminé aussi vos travaux de recherche?
Oui, parce que quand on grandit dans ce territoire-là, il est marqué par l'industrie textile. Et il a vu s'effondrer les châteaux de l'industrie. Et donc, tout autour de moi, durant mon enfance, mon adolescence, j'ai vu ces friches industrielles et puis j'ai entendu aussi ces récits portés par l'ensemble des proches, des amis, des gens de ces villes qui racontaient l'âge d'or de l'industrie textile et qui racontaient aussi comment les usines avaient fermé. C'est pour ça qu'il y avait des taux de chômage records et des situations de grande pauvreté. Et puis plus tard, moi je me suis investie dans des projets de transition écologique, j'ai voulu comprendre ces réalités-là. Et puis un jour j'ai décidé de comprendre ce qui s'était passé dans le monde économique, parce que souvent on le passait de côté, c'était une fatalité, c'était normal. Au nom de la compétitivité, on avait fait d'autres choix d'organisation de l'économie. Et j'ai décidé de m'interroger quels étaient ces choix, pourquoi les avait-on fait et comment aujourd'hui on pouvait agir.
Il faut préciser, Majdouline Esbahi, que justement, il reste aujourd'hui en France, si j'ai bien lu votre livre, 1 million de personnes employées dans ce secteur de la mode contre 3,5 millions au 19e siècle, c'est ça?
Oui, il y a une évolution. Alors, dans la région des Hauts-de-France, donc la région de Nord-Pas-de-Calais, on est passé de 171 000 à l'après-guerre à 11 000 aujourd'hui. On a dans l'industrie les enseignes, donc on a clairement perte d'emplois très importante consécutive à l'évolution de l'organisation de l'industrie de la mode. Dans les années 90, des entreprises comme Nike décident de garder leur siège avec la création, le marketing et la communication dans un pays du Nord et choisissent de sous-traiter la fabrication dans un pays du Sud pour obtenir les meilleurs coûts de revient, pour obtenir des produits moins chers et qui sont réalisés plus rapidement. Ce mouvement est suivi par d'autres marques, d'autres enseignes. Et dans le même temps, la production mondiale de produits de mode et d'habillement explose. Et donc, c'est ce qui a construit cette industrie de la mode telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Et dans les années 2000, on décide d'accélérer encore plus, puisqu'on lance le renouvellement permanent des collections. Des entreprises comme Zara déclaraient, il y a encore peu, proposer 40 000 modèles par an. Donc, pour que les gens reviennent tout le temps en magasin et aient tout le temps envie d'acheter de nouveaux vêtements. Et puis ensuite, on active le levier du discount permanent, de la solde permanente, du rabais permanent. Et donc tout cela pour conséquence de créer une course folle pour les entreprises et aussi une course folle pour les consommateurs, une saturation du marché et puis une perte de valeur au final de ce qu'est un vêtement, de sa valeur, parce qu'un vêtement qui est acheté à petit prix, produit dans des conditions qu'on connaît depuis le Rana Plaza, finalement aux yeux du consommateur peut perdre toute valeur, alors qu'un vêtement, il nécessite l'extraction de ressources naturelles, des phases de transformations nombreuses dont pourra nous
on
parler,
va en parler bien sûr,
Dominique Cardon.
Bien sûr.
Finalement, il a une valeur et donc réinvestir dans la fabrication des vêtements et redonner de la valeur au travail des gens qui les fabriquent, au processus de fabrication, c'est redonner de la valeur à ses savoir-faire et redonner de la valeur aux vêtements.
Dominique Cardon, est-ce que tout ça, c'est révélateur d'un monde de la mode qui marche sur la tête, selon vous? Parce que, bon, vous êtes aussi plongée en tant qu'historienne spécialiste des textiles, des savoir-faire. Dans ces temps passés, du commerce de la soie à l'industrialisation, le textile a toujours fait l'objet d'échanges internationaux. Donc on pourrait se dire, voilà, c'est un peu dans l'ère des siècles précédents aussi.
Oui, dans une certaine mesure, au XVIIIe siècle, les cartes d'échantillons de couleurs étaient envoyées deux fois par an, du Languedoc à Marseille et de là jusqu'aux confins de l'Empire ottoman. Donc il y avait ce souci de la mode, mais c'était déjà le début d'une évolution assez dont on voit le résultat catastrophique à l'heure actuelle. Autrefois, il y avait une telle valeur. Quelqu'un qui portait un vêtement de pourpre était affiché son statut social et d'une manière qui était comprise par toutes les strates de la société et d'une façon dont on n'a aucune idée à l'heure actuelle. C'était même disproportionné dans l'autre sens. On va d'une place complètement démesurée, folle, Pline lui-même parlait de la folie de la pourpre, à une autre place qui est complètement dévalorisée du vêtement. Mais on pourrait effectivement envisager de revenir à des positions plus raisonnables et plus durables surtout pour notre planète.
David Saint-Andreux, ce monde de la mode, vous le comprenez vous aujourd'hui?
Non, pas vraiment en fait. Oui, c'est quelque chose qui me surprend toujours. On est confronté à des aberrations permanentes, tant sur l'origine des textiles, les conditions de travail dans lesquelles elles sont produites et tous les circuits commerciaux qui vont suivre. À mon avis, on marche sur la tête. On a vraiment beaucoup de choses à changer dans ce domaine.
On va parler des procédés de fabrication tels qu'ils sont dans cette mode express jetable et ces techniques de fabrication sur lesquelles vous travaillez. Mais auparavant, je voudrais que vous écoutiez ce document, l'extrait d'un reportage diffusé sur France 2 le 8 janvier 2019 qui va nous permettre de prendre aussi conscience des répercussions sur la planète de cette mode jetable.
Je trouve que ça se renouvelle assez souvent, oui, et ça incite à acheter.
On est toujours attiré par la nouveauté, on a toujours envie de changer. Du coup, il y a plein de choses qui s'accumulent dans le placard.
Le revers de cette consommation effrénée, des dégâts pour l'environnement. En 15 ans, la production mondiale de vêtements a doublé. Elle utilise 4% de l'eau potable. Selon une association de défense de l'environnement, pour fabriquer un t-shirt, on consomme l'équivalent de 70 douches, 285 douches pour un jean. Une production qui alimente aussi le réchauffement climatique. Elle dégage 1,2 milliard de tonnes de CO2 chaque année, plus que les transports aériens et maritimes mondiaux additionnés.
Si on continue dans cette tendance d'acheter de plus en plus, on voit qu'en 2050, d'après les projections, on sera à 25% de gaz à effet de serre issus du secteur textile. Donc c'est tout juste insoutenable.
Majdouline Sbahi, une mode polluante que vous décrivez bien dans tous ces aspects dans votre livre. Cette industrie de la mode est la deuxième la plus polluante au monde. On n'en a pas toujours conscience. Après l'extraction pétrolière, avec 140 milliards de vêtements produits en 2018, soit trois fois plus qu'en 2000. Et alors tout cela, bien sûr, à travers deux phases, la phase de production et la phase d'usage.
Oui, effectivement, le premier élément, c'est qu'on produit beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, donc déjà en volume. Donc, on a une industrie qui utilise des procédés qui entraînent des pollutions dans les milieux naturels et qui utilise aussi des ressources naturelles pour produire. Il y a quelques chiffres qui illustrent l'ampleur de ces pollutions. On sait qu'on utilise 25% des pesticides du monde pour la culture du coton seulement. On émet plus de gaz à effet de serre qui provoque le dérèglement climatique avec l'industrie de la mode qu'avec le transport aérien international et le transport maritime. Et ensuite, si on prend la pollution sur les milieux naturels, l'ONG Greenpeace avait fait un rapport en 2012 qui montrait qu'il y avait 5 fois plus de métaux lourds dans les eaux de surface au Bangladesh que la moyenne à cause de ces émissions en fait de produits issus de l'industrie textile dans le milieu naturel. D'autres ONG ont dressé les mêmes constats. Donc l'ampleur de l'exploitation des ressources naturelles, de la pollution des milieux, de l'impact sur le dérèglement climatique de l'industrie de la mode est considérable.
Les produits chimiques aussi qu'on retrouve dans les teintures.
On les retrouve aussi dans les vêtements. C'est vrai que la même ONG Greenpeace avait publié un rapport qui doit sans doute aujourd'hui être actualisé, mais qui montrait que sur des échantillons de vêtements, 2/3 d'entre eux contenaient des substances considérées comme toxiques, pouvant provoquer, en tout cas, pouvant être
des
perturbateurs endocriniens. Quand on dresse ce tableau, on se demande, comme vous le dites, pourquoi on ne le sait pas davantage et pourquoi dans les politiques environnementales, dans les politiques de réglementation, la question de l'industrie de la mode n'a pas tenu une place plus importante. Et surtout, on prend conscience de l'urgence d'agir. Et alors, bien sûr, on l'a évoqué avec le Rana Plaza, évidemment, les conditions de travail et les impacts sur les ouvriers du textile, qu'il s'agisse des ouvriers agricoles ou des ouvriers qui travaillent dans les usines, doit être aussi une préoccupation très importante.
Et alors, parmi tous ces produits, il y en a un qui est encore plus polluant peut-être que tous les autres, c'est le jean.
Oui, alors le denim est l'emblème. En plus, le denim, qui, quand on utilise du sablage, évidemment, parce que aussi on a besoin de certaines ressources naturelles pour le faire. Donc, et puis la quantité d'eau impressionnante qu'il faut utiliser. C'est vrai qu'on n'imagine pas, troisième consommatrice des eaux d'irrigation dans le monde, les eaux d'irrigation. On en a besoin pour vivre. C'est pour ça que moi je parle de mode éthique, parce que évidemment quand on consomme autant de ressources naturelles pour produire des vêtements qui ensuite sont revendus à très bas prix pour une partie d'entre eux et jetés, sans parfois être portés, puisqu'on a 30 à 50% de ce qu'on a dans notre placard que nous ne portons pas ou quasiment pas, eh bien c'est un vaste gaspillage. Et donc comme le gaspillage alimentaire, le gaspillage vestimentaire est un vrai fléau auquel il faut s'attaquer parce qu'il a des conséquences dans plein d'aspects de notre vie.
David Santandreu, ces teintures utilisées aujourd'hui par cette mode express jetable, est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qu'il en était? Parce qu'il faut préciser que vous, comme Dominique Cardon, vous êtes au cœur des techniques, des teintures naturelles, des techniques d'autrefois que vous faites en sorte de faire revivre. Quel est votre jugement justement sur ces deux mondes?
j'ai une particularité, c'est que je ne pratique que la teinture naturelle. Donc, je suis pas très bien placé pour parler des colorants de synthèse, puisque je n'en utilise pas. C'est un choix que j'ai fait, un choix qui m'a été plus ou moins imposé suite à une intoxication à une molécule qui n'est pas de teinture, hein, mais qui est une molécule chimique qui s'appelle le diméthylfumarate en 2010, qui était présent dans des chaussures qu'on m'a offert. Et donc, il s'avère que depuis cette période-là, je ne peux plus porter de couleurs synthétiques sans avoir des réactions dermatologiques. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait. Mais une chose est sûre, c'est que les différentes réglementations le prouvent depuis des années, depuis des décennies. On supprime très régulièrement des molécules utilisées dans la teinture, dans l'industrie du textile. Notamment, on a commencé, et je crois que ça continue avec les anilines, les colorants azoïques et ainsi de suite, qui progressivement sortent du marché pour des raisons vraiment de toxicologie, de toxicité très importante. Donc voilà, on le sait, les études aujourd'hui prouvent qu'une grande partie des colorants qui ont été utilisés et qui sont encore malheureusement utilisés dans le monde, moins en Europe, hein, mais dans des pays asiatiques ou en Afrique, dans des pays où il n'y a pas de réglementation, ces produits sont toujours utilisés. Aujourd'hui, on sait que ces produits sont très nocifs. Donc, il faut impérativement les supprimer et les remplacer par des produits moins nocifs. Les colorants végétaux sont une alternative à ces produits-là, qui demandent encore beaucoup de recherche et de travail. On n'a pas encore fini le travail, mais il y a vraiment une évolution très importante ces dernières années. On a des résultats qui sont assez surprenants avec ces molécules tout à fait naturelles. On obtient des couleurs qui sont magnifiques. On peut obtenir des solidités équivalentes, voire supérieures pour certaines couleurs et certaines plantes aux couleurs chimiques, donc de synthèse. Donc voilà, il y a plus de doute. Je crois qu'on a un très très gros travail à faire pour faire avancer dans l'industrie du textile, dans la mode, et faire changer un peu les mentalités des industriels pour passer à autre chose. On a une prise de conscience énorme aujourd'hui avec le recyclage des eaux de teinture naturelle. On peut recycler ces eaux sans aucun problème. Ça demande des technologies très simples. On n'a pas besoin de technologies toujours de plus en plus à la pointe. Non, on peut faire ça très simplement et on peut avoir des résultats vraiment satisfaisants qui peuvent être autant satisfaisants pour les fabricants, hein, de manière à avoir un coût de production assez raisonnable, surtout si on industrialise ces méthodes, mais aussi pour le consommateur, parce qu'on a vraiment des couleurs qui sont merveilleuses, qu'on n'arrivera jamais à reproduire, l'éclat des couleurs et la vibration des couleurs. On n'aura jamais la même chose avec des produits de synthèse. C'est flagrant quand on les observe à l'œil nu, tout simplement. Hein.
Dominique Cardon, ces couleurs que vous parvenez à faire revivre, en sachant que vous recherchez dans les archives les secrets d'antan, que vous dénichez des rapports, des cahiers tenus par ces maîtres teinturiers d'autrefois, et qui ont aussi laissé même des traces, hein, de ces couleurs, et vous essayez d'être, vous et David Santandreu, au plus près de ces petits bonheurs, quoi.
Oui, alors, d'abord, c'est pas des secrets. En fait, les gens qui pratiquaient ces teintures ont souhaité partager leur savoir. Ce que je fais simplement, c'est, sentant justement cette évolution, essayer de donner des moyens, des outils à cette génération de gens qui veulent se réorienter vers une mode éthique et plus basée sur les ressources de la nature, renouvelables. Ça, c'est encore un problème. Donc, j'essaye de publier des carnets de teinturiers, notamment du XVIIIe siècle, où on a vraiment le siècle des Lumières, donc les gens veulent être clairs, et pour illustrer leurs propos, ils mettaient des échantillons de teinture. Donc, avec les outils dont on dispose actuellement d'analyse des colorants et de colorimétrie, on peut proposer des mesures, des recettes adaptées à notre époque et des données sur ces couleurs de manière à pouvoir les reproduire fidèlement. Ceci dit, il n'est pas du tout question de revenir en arrière et de se retrouver dans les situations où on était à la moitié, disons, du 19e siècle, au moment où on voit des déferler les colorants synthétiques. L'humanité n'était pas devenue folle. En fait, c'était qu'il y avait des problèmes à résoudre, de production, de mise en fabrication, de coûts de productivité. Donc, ce qu'il nous faut à l'heure actuelle, c'est franchir cette espèce d'étape où on a complètement oublié les colorants naturels, la manière de les mettre en œuvre, leur nature, et trouver des solutions pour les utiliser de manière plus efficace. Il faut beaucoup de recherche. David en a parlé. Je pense qu'il y a un grand effort de recherche dans tous les domaines de la production textile et des colorants naturels pour arriver à satisfaire les consommateurs de maintenant qui ne sont pas prêts à revenir à l'âge de la pierre et à s'habiller de peau de bête sans colorant, sans couleur. Les colorants synthétiques, ils nous ont donné la couleur pour tous. Donc, moi, je suis très reconnaissante de ça. C'est une révolution dans les sociétés du monde entier. Et donc, il faut relever le défi avec des ressources renouvelables et naturelles et non toxiques d'offrir une mode jolie, agréable. Et c'est pour ça que je suis en ce moment en train de publier des belles couleurs, tant que je peux.
Et oui, dans votre livre qui paraît et qui s'intitule, on peut le préciser, « Des couleurs pour les lumières », Antoine Janot, teinturier occitan. Et c'est publié au CNRS Édition. Vous parliez de la toxicité. Pour vraiment bien comprendre ce qui se joue avec ces problèmes d'allergie aujourd'hui, écoutez ce reportage qui a été diffusé sur France 3 le 4 juillet 2018, tout simplement au moment où l'ANSES a sorti un rapport.
En cette période de solde, cette alerte sanitaire pourrait inquiéter tous ceux qui dévalisent les boutiques. En plus du coton et du polyester, on pourrait trouver plomb, mercure et nickel dans la composition de nos vêtements et chaussures. Des produits chimiques allergènes dénoncés par l'Agence de sécurité de l'alimentation et de l'environnement dans une étude publiée aujourd'hui.
On a pu retrouver notamment dans des chaussures, dans des sandales en cuir, la présence de chrome, de dérivés du chrome, de chrome 6, qui est une substance sensibilisante, donc qui peut entraîner des cas d'allergie. Dans les cols aussi, qui permettent de coller la semelle des chaussures, il y a de la colophane qui est connue comme étant sensibilisante.
Benzidine, chrome 6, nickel. Au total, une dizaine de produits toxiques qui peuvent causer des réactions cutanées, comme de l'eczéma sévère ou des œdèmes, certains pouvant être cancérigènes. Si la plupart de ces substances disparaissent au lavage, d'autres y sont résistantes. Les auteurs de l'étude souhaitent donc aller plus loin.
Il y a des articles qui sont conformes à la réglementation, mais malgré tout, les seuils autorisés ne permettent pas de garantir l'absence de réaction pour les consommateurs et on préconise l'abaissement de ces seuils pour éviter l'apparition de réactions cutanées chez ces personnes.
L'Agence nationale de sécurité demande aussi une meilleure information grâce à une étiquette alertant les clients les plus sensibles.
France Culture, de cause à effet. Le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Majdouline Sbahi, quand on écoute ce reportage, on prend la mesure à la fois de la toxicité et non seulement par rapport aux produits d'ailleurs utilisés, il y a aussi donc les matériaux, les teintures. Est-ce qu'aujourd'hui on a une visibilité de la toxicité possible aussi de ce qui est naturel? Parce que le naturel peut aussi, selon les doses, générer des allergies. Donc, possiblement, les fibres naturelles ou les teintures naturelles. Où on en est aujourd'hui?
Moi, je me suis surtout intéressée aux études qui portaient sur les impacts environnementaux et les impacts sanitaires avec des perturbateurs endocriniens ou, comme c'est le cas dans ce reportage, des substances qui, selon les seuils, pouvaient entraîner vraiment des problèmes. Ce qu'on sait, c'est que globalement, quand on utilise dans la phase, notamment dans l'emblissement et de finition des textiles, des produits qui contiennent des métaux lourds, etc., et des substances chimiques, elles peuvent se retrouver dans le vêtement, comme je l'ai dit, et dans le milieu naturel. Donc ça, c'est un problème. Il y a un problème de réglementation. Et dans les pays où c'est fabriqué, par exemple, on pourrait imaginer qu'il y ait davantage de contrôle, etc. Mais on sait les conditions aujourd'hui dans lesquelles sont fabriqués les vêtements. Et puis, du côté des donneurs d'ordre, c'est-à-dire des entreprises, des enseignes qui passent commande à des sous-traitants, ils n'ont pas toujours le suivi de l'ensemble de la chaîne de fabrication pour savoir dans quelles conditions précises les choses ont été faites, quels produits ont été utilisés, etc. Et donc cet enjeu de traçabilité, déjà d'information de consommateur et de traçabilité aussi du donneur d'ordre, du fabricant, de la marque, de l'enseigne, est déterminante. Et aujourd'hui, elle n'est pas garantie par les conditions actuelles avec, dans lesquelles on fabrique les vêtements.
Donc ça veut dire que la législation a son rôle à jouer.
La législation a son rôle à jouer. Normalement, il y a des directives européennes comme REACH qui doit être un outil de régulation de ces questions-là.
Donc votée par le Parlement européen en 2006 déjà,
voilà,
pour interdire l'usage des produits toxiques.
Il y a cette directive REACH. Il y a aussi la loi plus récente qui est issue en fait du travail mené notamment par Éthique sur Étiquette et d'autres ONG pour faire en sorte qu'il y ait un devoir de vigilance des entreprises françaises qui ont des sous-traitants à l'étranger, puisque quand vous travaillez avec une entreprise à l'autre bout du monde, vous n'êtes pas forcément soumis à la réglementation uniquement en France. Et donc, c'est un outil, une loi qui oblige à ce que les entreprises rapportent et fassent un rapport annuel sur qu'est-ce qu'elles font, comment elles travaillent, etc., etc., du point de vue de l'environnement, du point de vue des droits humains. Je voudrais juste ajouter une chose, c'est que je pense que le principe, de toute façon, c'est déjà d'avoir une information sur de quelle manière a été fait le produit, dans quelles conditions, etc. Une vraie traçabilité de l'ensemble de la chaîne de fabrication. Et ensuite, vous avez évoqué tout à l'heure les usages. Effectivement, c'est important d'être conscient que, par exemple, quand on privilégie les matières synthétiques, comme le polyester, eh bien, on sait aussi que ces fibres se retrouvent dans les océans, puisqu'au moment du lavage, les fibres vont dans l'eau, puis dans les océans. Et donc, la Fondation Ellen MacArthur a estimé qu'il y avait l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique dans les océans.
Dû aux microfibres
qui se retrouvent dans le milieu naturel. Et donc, aussi parce que quand nous lavons nos vêtements, ces fibres vont dans le milieu. Il faut dire aussi que c'est vrai que l'ensemble de ces éléments d'information que le public n'a pas, que les consommateurs n'ont pas, parce que quelqu'un qui achète un samedi après-midi une jolie robe en polyester qu'elle trouve fleurie et sympathique et surtout pas très chère, elle ne va jamais se dire, tiens, je vais donner à manger du plastique aux poissons. Et donc, je pense que cet enjeu d'information, de traçabilité, de transparence, il est déterminant, quelles que soient les matières, y compris pour des matières naturelles sur lesquelles il pourrait y avoir aussi des problématiques de toxicité ou d'allergie.
David Santandreux, à la fois sur les questions là soulevées par Majdouline Sbahi, mais également sur les teintures naturelles. C'est quand même au cœur de votre métier au quotidien. Je posais la question justement de la toxicité qui peut aussi être possible avec les produits naturels. Voilà, quel est votre regard et qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Peut-être pas la même toxicité que les autres produits dont vous parliez tout à l'heure.
Effectivement, avec un produit naturel, on peut tout à fait polluer, on peut intoxiquer quelqu'un. Il y a des molécules qui sont naturelles, mais qui sont toxiques. Donc oui, effectivement, et il y a des questions à se poser, puisque le travail d'un teinturier aujourd'hui consiste à produire des couleurs, mais ne consiste pas forcément à se soucier de ce que va devenir l'eau une fois qu'on aura fini la teinture. En teinture naturelle, on peut utiliser des mordants, des sels métalliques, qui, à forte dose, déversés dans une rivière, peuvent être vraiment très nocifs. Je pense à l'alun qui n'a pas de toxicité en soi directement, mais à forte concentration, on peut polluer avec de l'alun, on peut polluer avec de la chaux lorsqu'on utilise de la chaux dans des cubes de teinture à l'indigo, par exemple. Des fortes concentrations en chaux déversées dans une rivière ou déversées dans un champ, ou voilà, on peut polluer. Je pense notamment à l'extraction de l'indigo sur certaines plantes qui consomment des très très grosses quantités d'eau, sur lesquelles on utilise de la chaux notamment, déverser 30 000 litres d'eau par jour pour extraire de l'indigo d'une plante, déverser cette eau sans traitement dans la nature, peut devenir un problème si vraiment il n'y a vraiment aucun suivi de cette eau et du traitement de ces eaux. Donc oui, effectivement, on peut polluer avec et intoxiquer des personnes avec des produits naturels. En ce qui concerne les teintures en elles-mêmes, les produits qui sont aujourd'hui étudiés et utilisés et qui ont été utilisés pendant des siècles auparavant, on a quand même un recul par rapport à tout ça. Utiliser de la garance, du réséda, du châtaignier et des plantes qui ont été utilisées, du genêt de teinturier, des choses comme ça. Si les protocoles, les méthodes de fabrication de teinture sont respectées, on n'a pas de risque direct sanitaire. Rejeter une eau légèrement colorée avec un petit peu de colorant qui contient la garance, par exemple. Rejeter cette eau directement dans la nature sont des colorants qui sont biodégradables très, très rapidement. Voilà, on en revient toujours au même point, ces colorants naturels, si on les utilise intelligemment comme il faut, ne demandent qu'une très petite installation en termes de recyclage des eaux.
Donc ils ont moins de conséquences sur l'environnement, c'est ce que vous nous dites. Et on imagine, David Santandreux, que vous privilégiez aussi, vous, les fibres naturelles pour les textiles. Le lin, le chanvre, comment vous travaillez?
Bien sûr, oui, oui. Je privilégie tout à fait les fibres naturelles et surtout les fibres qui sont essentiellement produites en France. Et je pense particulièrement à la laine, qui est une fibre qui a fait l'histoire de la draperie française, qui a fait une partie de la richesse de la France. Et cette matière qui aujourd'hui est un gros problème pour les éleveurs qui se retrouvent à devoir la brûler dans bien des cas ou la composter parce que on ne sait plus quoi en faire. Les marchés, le marché est tellement bas que plus personne n'en veut. La filière laine a pratiquement disparu, à part quelques irréductibles qu'il reste en France, alors qu'on a une matière première qui est, en termes de durabilité, en termes d'environnement, on a une matière qui est vraiment fabuleuse. Cette fibre a totalement, pratiquement disparu ces dernières décennies en France. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors on parle du lin et du chanvre, et qui sont exactement... dans le même cas, qui sont des fibres merveilleuses et qui ont pratiquement disparu, un peu moins pour le lin, hein, puisqu'on est quand même bien placé pour la production du lin en France, mais ça reste quand même des productions très marginales. Le chanvre, aujourd'hui, il y a des tas de personnes qui voudraient repartir sur des productions de chanvre. On n'a pas d'outils de transformation en France. Les savoir-faire, les machines et l'industrie a été délocalisée, donc on se retrouve à produire du chanvre en France qu'il faut exporter pour ramener, pour être traité à l'étranger, puis qu'on ramène en France pour commercialiser sous forme de textile. Même si je privilégie ces fibres-là, je sais que c'est pas forcément les fibres très écologiques. Moi-même, j'ai des vêtements qui sont en chanvre. J'ai vu des chiffres qui sont assez aberrants sur la quantité de vêtements jetés par personne. Je crois que c'est aux alentours de 10 kilos de vêtements jetés tous les ans par des personnes. Moi, je pense que ces 10 dernières années, je n'ai pas acheté 10 kilos de vêtements que j'ai encore, que je n'ai pas jetés, puisque j'utilise ces fibres-là, chanvre, lin, laine, qui sont des matières qui sont très résistantes, qu'on n'a pas besoin de jeter. Mais malgré ça, le chanvre que j'utilise a fait plusieurs milliers de kilomètres avant d'arriver dans mon atelier. Donc c'est un peu compliqué, mais de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. La teinture végétale, la teinture naturelle, on est à part quelques fibres synthétiques qui se teignent en naturel, la plupart des colorants végétaux sont utilisables sur des fibres naturelles. Donc il faut, on n'a pas le choix que de privilégier ces fibres naturelles, lin, chanvre, coton, éventuellement rami, bien sûr, soie et toutes ces fibres naturelles.
Et puis nous voyons aussi de plus en plus émerger de jeunes créateurs hein, qui font en sorte même de récupérer des textiles utilisés et à partir de là proposer de nouvelles collections. Je vous propose de continuer notre discussion dans un instant, juste après le choix musical. Alors je précise pour les auditeurs que tous vos univers musicaux sont à retrouver sur le site de France Culture et donc le choix musical aujourd'hui sera celui de Majdouline Zbahi. Bachung, La nuit je mens, il y a une raison particulière ?
J'adore, tout simplement.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. d'estrade en estrade, je fais danser tant de malentendus, des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire, dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément, j'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho.
Et c'est la suite de notre émission De cause à effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui aux effets et aux conséquences environnementales et sociétales de la mode jetable, deuxième industrie, je le rappelle, la plus polluante au monde, et aux solutions éthiques et durables dans cette économie monde. Avec nous, pour en parler, Majdouline Zbahi, sociologue, entrepreneuse, auteure de Une mode éthique est-elle possible, édité aux éditions Rue de l'Échiquier. Dominique Cardon, historienne, spécialiste des techniques traditionnelles de production textile et de teinture, et avec un livre aussi, tout récemment sorti, Des couleurs pour les lumières, Antoine Janot, teinturier occitan 1700-1778, un livre paru chez CNRS Éditions. Et puis David Santandreux, maître teinturier, et qui, lui, est en train d'écrire un livre, on y reviendra sûrement avec lui au moment de la sortie. Mais tout de suite, notre revue d'Info Environnement. Et parmi les nouvelles de la semaine, un rapport commandé par le Parlement européen sur les perturbateurs endocriniens et leur évaluation montre que la réglementation européenne ne protégerait pas les populations des perturbateurs endocriniens. En effet, selon les deux spécialistes auteurs du rapport, Barbara Domenech et Rémi Slama, l'absence de prise en compte des effets cumulés de ces substances et les profondes incohérences entre les différentes réglementations posent un grave problème. Selon leurs conclusions, l'Europe n'a pas les moyens de faire appliquer sa politique de préservation de la santé publique et de réduction de l'exposition des populations aux perturbateurs endocriniens. À lire l'article de Stéphane Foucard sur lemonde.fr. Autre nouvelle littéraire cette fois. Pour sa deuxième saison, le prix du roman de l'écologie, attribué à un auteur francophone, a été décerné jeudi soir à Serge Joncourt pour son livre « Chien-loup » paru chez Flammarion. Entre 1914 et aujourd'hui, c'est une histoire qui se passe dans un coin perdu du Lot, faite d'aller-retour entre hier et aujourd'hui, entre la violence de la Grande Guerre et un couple de Parisiens venus se déconnecter du monde le temps d'un été en 2017. Voilà, entre 1914 et 2017, l'histoire se passe. C'est le tout avec la présence d'un chien-loup qui transforme le narrateur, le rend autre ou tout simplement le rend à lui-même. Un prix du roman de l'écologie décerné par un solide jury avec notamment Camille Schmitt, Dalibor Friou, Alexis Génis, Alice Fernet, et qui associe aussi des étudiants de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et puis des étudiants du master de création littéraire. Qui remporte la panne du mois de notre sélection? La pollution des sols au plomb qui sévit dans les Yvelines et le Val d'Oise et que l'on tente de réduire au silence. C'est à lire l'article de Mathilde Bouquerel sur reporter.fr. Et le plus de la semaine, il y en a deux. Allez, deux films. Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger, un documentaire de Georges Fetterman, Jean-Pierre Duval et Caroline Breton. Ils nous font tous les trois découvrir des arbres incroyables, insolites, historiques, de légende, un patrimoine national qu'il faut protéger par une législation plus efficace, à voir dans quelques cinémas, petite distribution, mais à soutenir absolument. Et puis pour se faire encore du bien, à voir ou à revoir en replay sur Arte la série documentaire Les secrets des fleurs sauvages, série proposée par Yves Pacalet et Thierry Ragobert. C'est le soir à 19h et ce jusqu'au 8 avril. Une très belle immersion au cœur des plantes, de leur origine, de leur histoire, de leur vertu, notamment celle qu'elles ont de nous faire gagner en liberté.
France Culture, De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
David Santandreux a 5 jours pour apprendre à ses Jordaniennes la technique traditionnelle tarnaise de la teinture indigo. Mélangée à de l'eau, la fameuse boule de cocagne fermente pour obtenir le pigment bleu contenu dans le pastel.
Voilà, bien oxygéné. Voilà, là on voit bien le bleu apparaître.
Dans un pays, la Jordanie, où l'eau est une denrée rare, c'est la technique idéale. Pour Naïfé, Kamlé et Nour, fini les litres et les litres d'eau nécessaires pour extraire l'indigo. Fini aussi les vêtements bleu pâle qu'elles produisent en Jordanie.
Nous essayons de faire de notre mieux pour convaincre les Jordaniens d'aimer l'indigo. Il a été produit là-bas pendant des centaines d'années. Donc maintenant, nous voulons le réintroduire.
À leur retour en Jordanie, elles transmettront à leur tour la technique de David aux 10 autres teinturières de leur atelier.
David Saint-André, on vient d'entendre là l'extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Occitanie le 27 mars dernier. C'était dans votre atelier, en compagnie de Jordaniennes, afin de leur enseigner l'art de la teinture de l'indigo. Est-ce qu'on peut parler alors à la fois de la perte d'un savoir-faire et puis du retour peut-être aujourd'hui de ce savoir-faire depuis la France jusque dans leur pays ?
Oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui. L'indigo a toujours été, d'ailleurs, je crois, le bleu a toujours été la couleur la plus utilisée en teinture. L'indigo est une matière qui est utilisée depuis très longtemps et encore beaucoup utilisée, puisque c'est aujourd'hui de synthèse, dans la plupart des cas, notamment pour la teinture du jean, mais ça reste le pigment qui est un colorant très utilisé en teinture textile. Alors, oui, la technique, les techniques ancestrales, on peut dire ça comme ça. Oui, effectivement. Alors, ces femmes sont venues pour cette raison, pour apprendre à travailler d'une manière très écologique. Vous savez qu'en Jordanie, l'eau, nous on prend conscience depuis peu de temps que l'eau est une ressource très précieuse, mais ces populations qui vivent dans des climats très secs en ont pris conscience bien avant nous. Et donc la technique ancienne de teinture, alors là ça a été un peu schématisé, un peu très rapide par le journaliste qui a présenté la technique, ce n'est pas juste des boules de cocagne qui sont mises à fermenter dans de l'eau, ça demande quand même un peu plus de choses à mettre en œuvre, mais au final, c'est ça, c'est une matière qui est compostée, qui demande absolument pas d'eau pour la production et qui est utilisée ensuite dans les cubes de teinture pour réduire l'indigo, qui sert de ferment pour réduire l'indigo. Donc cette technique-là a vraiment des avantages environnementaux sur le plan sanitaire et tout ce qu'on veut, parce qu'on n'utilise pratiquement pas d'eau pour mettre en œuvre cette pratique-là. Les cuves de teinture se gardent vraiment très longtemps, plutôt que jeter des cuves de teinture très régulièrement, comme elles le faisaient jusque-là par les méthodes qu'elles utilisaient. Elles jetaient leurs cuves tous les 3 jours, en général, toutes les semaines, quand tout allait bien. Mais beaucoup d'eau jetée, beaucoup de pertes de matière colorante. Donc voilà, on travaille je travaille depuis quelques années, Dominique travaille sur ce sujet depuis bien plus longtemps. Mais moi, depuis quelques années, je travaille sur ces techniques-là de teinture par fermentation. Et aujourd'hui, je me rends compte, pour avoir travaillé dans l'industrie agricole et dans la production d'indigo industriel en France, je me rends compte que de revenir à ces méthodes anciennes a vraiment tous les avantages sur le plan écologique, puisque là, vraiment, la consommation d'eau est vraiment ridicule. On n'a pratiquement aucun déchet. Le peu de déchets que nous avons, ce sont des déchets qui sont totalement recyclables, toujours pareil, avec des méthodes très simples, toujours par compostage de la matière organique. Donc on se retrouve avec un déchet qui devient à la longue un engrais, qui peut être réinjecté dans les parcelles de production, qui peuvent être réutilisés pour l'agriculture en général. Donc oui, si l'indigo est revenu il y a quelques années sur des méthodes, il y a des recherches qui ont été faites dans un sens, mon avis est qu'il faut passer à autre chose. Et comme le disait tout à l'heure Dominique, c'est pas parce qu'on revient sur des méthodes anciennes qu'on revient au Moyen-Âge. Non, aujourd'hui, on sait que... les résultats, moi, me prouvent que la technique est bonne, elle est écologique. On a en termes de solidité des couleurs, on a un résultat qui est assez époustouflant. En termes d'éclat des couleurs, c'est merveilleux. Et en termes de traitement des déchets, c'est fabuleux. La seule chose qui nous manque, c'est la mise en œuvre industrielle. Aujourd'hui, la main-d'œuvre coûte très cher. C'est difficile, ça serait difficile de mettre en production un atelier de teinture avec ces techniques-là, avec une telle main-d'œuvre. Par contre, aujourd'hui, on a des moyens technologiques qui nous permettent de pouvoir réduire
cette main d'œuvre sans l'éliminer, bien sûr, tout en gardant, bien sûr, et en créant des emplois, ça, il n'y a pas de problème. Mais en mettant en œuvre ces techniques-là, avec des moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, à échelle industrielle, c'est d'ailleurs un projet sur lequel je travaille au Maroc, pour une société qui produit du denim, qui a un projet d'installer un atelier sur ces techniques, sur ces recettes de teinture, sur ces méthodes par fermentation, mais à échelle industrielle. En fait, je me rends compte qu'en France, l'industrie a un peu de mal à démarrer dans ce sens-là, alors que voilà, au Maroc, il y a une réelle ambition, une réelle volonté de produire des textiles écologiques traçables, puisqu'entre autres, en parallèle, on relance, là j'ai semé 9000 plants de polygonome pour relancer la production d'indigo. Il y a une réelle volonté de relancer une production d'indigo naturelle, biologique, d'avoir un produit sanitaire vraiment très fiable.
Dominique Cardon, et ensuite on écoutera vos réponses justement, Majdouline Sbahi, sur les sujets abordés par David Santandreu. Dominique Cardon, sur ces questions de teinture, et c'est le fait que finalement elle serait aujourd'hui peut-être plus éco-responsable, plus en accord avec ce devenir de la planète, la responsabilité qui est la nôtre aussi par rapport aux polluants. On parlait beaucoup de l'indigo, mais vous parlez aussi de toutes les autres couleurs dans vos livres, et notamment j'ai remarqué que le pourpre, on le fabriquait à partir de mollusques.
Oui, oui, oui.
Alors peut-être qu'on ne peut pas non plus faire fabriquer avec tous les mollusques du monde le pourpre pour une production industrielle. C'est ça aussi le problème.
Oui, c'est absolument certain. Il y a beaucoup de recherches, comme je disais, à faire, notamment identification des ressources potentielles en colorants naturels. Il y a tous les déchets d'autres productions agricoles qui sont exploitables, qui commencent à être exploités de manière sérieuse en Italie. Il y a des pays comme les Philippines où un département d'un ministère est consacré justement à cette identification des potentialités en ressources de colorants de la flore non seulement indigène mais aussi introduite. Moi j'ai dirigé une thèse en Nouvelle-Calédonie qui s'appelait ainsi, potentialité de la flore de Nouvelle-Calédonie du point de vue des colorants, avec une recherche parallèle sur l'activité biologique de ces colorants, puisqu'il y a le fait qu'une plante va produire des colorants est souvent lié à sa production aussi de substances qui ont une fonction de protection, donc une activité biologique souvent intéressante du point de vue médicinal. Alors on a fait ça en Nouvelle-Calédonie, il y a une thèse qui est actuellement en train d'être passée à Madagascar en association avec l'Université de La Réunion, aux États-Unis, au Brésil, beaucoup de pays s'intéressent, en Inde aussi. Il y a une recherche qui est parallèle à la recherche en ethnopharmacologie qui s'intéresse aux ressources. Ça, c'est des nouvelles plantes, en quelque sorte, en plus de toutes celles qu'on connaît traditionnellement. Les déchets industriels, quand on pense aux déchets d'exploitation forestière, quand on abat un arbre qui a une essence précieuse, quand on pense aux aires qui sont dévastées pour l'ouverture de pistes pour arriver à trouver cet arbre, quand on va trouver cet arbre après avoir donc déraciné toute la végétation, tous les buissons qui sont sur la piste, on va abattre l'arbre, on va laisser les racines, les branches, les écorces, les feuilles sur place, et tout ça, c'est une source de colorants extraordinaire. L'industrie des plantes médicinales ou des plantes à parfum, par exemple, on s'est aperçu lors d'une thèse qui a été passée par Pauline Guinaud à l'Université de Lille il y a quelques années que ces produits qui sont des déchets, en fait, ils fournissaient des substances qui permettaient d'améliorer la solidité lumière de certaines teintures naturelles ou qui servaient de substitut à des colorants métalliques. En fait, tout ça est une question d'investir dans une recherche pluridisciplinaire et qui aille de pair avec des recherches technologiques pour adapter les techniques à justement ces produits qui ne sont plus des sous-produits du pétrole, mais qui sont des produits naturels, donc plus complexes. La chimie des substances naturelles, elle est plus complexe que la chimie de synthèse, mais elle est très stimulante. En fait, c'est un défi scientifique et technologique. Et c'est notre défi de notre génération pour arriver à donner des solutions en tenant compte de tous les impératifs, y compris de coûts, de productivité. Mais on doit pouvoir y arriver. Si on mettait autant de ressources financières et scientifiques et technologiques qu'il y en a eu au début des colorants de synthèse, on arriverait à des solutions.
Et vous êtes, j'y crois vraiment. Vous êtes vous-même approché par des créateurs?
Oui, alors moi, je suis en contact d'une part par les symposiums internationaux que j'organise avec les gens qui viennent témoigner de leurs efforts et de leurs expériences dans ce sens, et de ce fait également par les industriels qui essayent justement d'appliquer les résultats de ces recherches. Et notamment en France, récemment, il y a eu cette intervention lors de l'Académie des savoir-faire de la Fondation Hermès, où on a débattu des possibilités d'utilisation beaucoup plus à plus grande échelle de la laine produite en France, des qualités des laines pigmentées qui ont une coloration naturelle, de colorants naturels et de colorants produits suivant des technologies nouvelles par des bactéries ou des champignons. Il y a plein de pistes à explorer.
Majdouline Esbahi, concrètement, ce marché-là, il est en gestation?
Oui,
parce qu'on parlait du Maroc, qui a l'air d'être un peu plus ouvert, mais est-ce que c'est pas là aussi une question de normes?
Alors, quand on écoute Dominique Cardon, on se rend compte que ce qui peut sembler être une contrainte, parce qu'il y a un impératif moral à réduire nos impacts sur l'environnement, à mieux traiter les travailleurs, etc., peut devenir une formidable opportunité. Et je dirais, c'est presque le sens de l'histoire. Quand elle parle de toutes ces recherches, ces innovations dans notre façon de faire des produits de mode et d'habillement, on se rend compte que finalement, c'est un avenir beaucoup plus réjouissant que celui qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que, par exemple, au Maroc, les contraintes, elles sont réelles au quotidien. Le manque d'eau, le stress hydrique, il existe dans... Donc cet univers de contraintes, il s'applique peut-être plus fort dans des pays qui connaissent déjà les effets du dérèglement climatique et qui n'ont pas nos climats tempérés, etc. Et donc qui obligent à inventer autre chose. Mais plus globalement, je dirais, si on doit résumer le défi que nous avons face à nous, c'est de s'inspirer de la nature pour construire, pour organiser notre économie, où tout se transforme, tout se recrée, rien ne se perd. Et comme on est entré dans une ère où la situation écologique est tellement grave qu'il faut réparer aujourd'hui, on ne peut pas simplement se contenter de réduire ses impacts. Il faut que les actions, les activités, les produits que nous réalisons réparent un peu. Donc quand on parlait tout à l'heure de chanvre, de lin, ce sont aussi des moyens de capter du carbone, etc., d'aménager le paysage. Quand on parle effectivement de l'ensemble de ces déchets qui peuvent être utilisés aujourd'hui, la laine qui n'est pas exploitée dans l'industrie textile, eh bien, elle peut devenir une matière première. Aujourd'hui, elle est soit jetée, soit compostée, alors qu'elle peut servir de matière première. Quand on parle de déchets qui pourraient servir de colorants, il y a par exemple une entreprise qui a créé de la viscose à partir de cellulose de fruits. En fait, c'est des épluchures d'agrumes qu'on utilise pour faire du vêtement. Et donc aujourd'hui,
on utilise du marc de café, du houblon, de l'ortie, des feuilles d'ananas.
Il y a un univers formidable qui s'ouvre à nous. Et puis je dirais, avant même d'en arriver là, ça concerne l'industrie. Il y a un champ de recherche et qui correspond aux attentes nouvelles des consommateurs qui sont en train de se renforcer dans la société. Aujourd'hui, on a besoin de transparence, d'authenticité, d'histoire. Et donc tout cela est une attente forte et elle va continuer à se renforcer. En tout cas, c'est mon souhait. Évidemment, il y a toujours la course aux vêtements pas chers, mais globalement, on prend un gros risque à ne répondre qu'à cette demande, à ne pas voir celle qui est en train d'émerger. Du point de vue du consommateur, tout simplement, déjà on peut appliquer cette logique d'utiliser ce qui est à ma disposition, de valoriser ce qui aurait pu être un déchet. C'est le seconde main, acheter des vêtements de seconde main, les réutiliser, les upcycler, les transformer. Y compris d'ailleurs, ça peut être un business, une activité économique créatrice d'emplois pour des entreprises. Donc ce n'est pas contre les emplois. C'est au contraire ce qui sera l'avenir des emplois de demain qui correspondent aux attentes nouvelles des consommateurs, aux besoins de la société, à l'impératif moral que nous avons de changer. Donc c'est cet ensemble, moi, que j'appelle, qui s'oppose à l'économie linéaire que nous avons connue, produire toujours plus, vendre toujours plus, jeter toujours plus. Demain, il faut inventer cette économie circulaire, ce cercle vertueux qui s'inspire de la nature, qui est biomimétique, qui réinvente en permanence des façons de s'adapter à notre environnement et de permettre le vivant demain. C'est ça l'éthique, c'est permettre à ce que la vie soit possible demain.
avec des actions faciles que vous nous proposez à la fin de votre livre pour rendre la mode éthique, donc s'engager dans des associations, changer sa façon de consommer, ranger et recycler, chiner comme vous disiez, rechercher, inventer les matières de demain, etc. Il y a beaucoup de solutions. On peut s'y retrouver déjà avec certains labels, mais parmi les labels, c'est comme pour les labels bio, il faut faire le tri.
Oui, il y a un grand défi aujourd'hui. Alors il y a des labels qui effectivement parlent de commerce équitable, je ne vais pas les citer parce qu'aujourd'hui, il faut expliquer à chaque fois ce que détermine chaque label.
Mais citez peut-être ceux qui sont fiables.
Alors, au Cotex, l'écolabel pour le coton bio, et puis Marc Savlard, le GOTS aussi, c'est le Global Organique Textile Standard. Donc, il y en a quelques-uns qui sont tout à fait fiables. Je dirais que ce qui doit guider le consommateur quand il achète un vêtement, c'est de pouvoir vraiment avoir des réponses à ses questions. Il y a un mouvement dans l'alimentaire. On a retrouvé une forme de souveraineté. On a commencé à réapprendre à savoir d'où venait ce légume, qui l'avait produit, comment. Le bio a aussi été utile, mais tout le mouvement de valorisation de l'agriculture paysanne l'a permis. Aujourd'hui, il faut ce même mouvement dans le vêtement. Il faut que nous puissions retrouver une souveraineté vestimentaire, une autonomie, une capacité à savoir comment il fait le vêtement, d'où vient sa fibre, etc. Parce que l'enjeu, je l'ai dit au début de cette émission, il est le même. Et donc, tout ça est un processus. Demain, il y aura probablement un affichage environnemental sur les vêtements. C'est des choses qui sont prévues dans la loi, qui concernent l'économie circulaire. Mais je dirais aux auditeurs, tournez-vous vers les marques, les enseignes, qui racontent comment est fait le vêtement et privilégier ces marques-là, cette traçabilité, cette transparence, ce récit qui doit être nécessaire où on sait comment est fait mon vêtement, comme je sais comment est produit ou que je suis aujourd'hui davantage dans une recherche de savoir comment est produit l'aliment que j'achète. Et puis après, il y a le plaisir de la mode, évidemment. C'est quand même un plaisir.
Oui, qu'on ne perd pas quand même.
La démocratisation du prêt-à-porter, c'est quand même quelque chose de très positif parce que ça a permis aux gens de s'affranchir aussi socialement et de s'émanciper. Et donc, c'est souhaitable. Et de cette recherche esthétique, finalement, se tourner vers des vêtements plus durables qui sont issus d'un savoir-faire qui a été respecté, qui ont une histoire, c'est quand même davantage un acte de mode que se tourner vers la mode jetable.
Je vous propose, avant de nous quitter, d'écouter ce dernier document sonore. Il s'agit d'un reportage qui a été diffusé sur France 2 le 9 février 2018. Et l'on se rend compte effectivement combien il est important de passer du cercle vicieux qui souvent se fait au mépris des plus faibles au cercle vertueux.
À 6500 km de la France, l'Inde est le premier producteur mondial de ce coton bon marché que les marques achètent. Pour augmenter les rendements, il est la plupart du temps cultivé à grand renfort de pesticides, comme ici, dans le Pendjab.
N'approche pas le bidon près de toi. C'est du poison.
Ce père de famille répand un mélange d'insecticides très dangereux pour la santé. Dans son réservoir, il y a notamment de l'éthion, que l'Union européenne a interdit en 2002, un produit qui serait très toxique pour le foie. Malgré ça, il n'a aucune protection, tout comme son fils de 7 ans, qui travaille avec lui.
Vous savez que c'est toxique et vous n'avez pas peur?
Oui, bien sûr j'ai peur, mais on est obligé de prendre des risques. Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Les masques et les gants coûtent cher, et nous n'avons pas les moyens d'en acheter.
Pourtant, son petit garçon est déjà gravement intoxiqué par les pesticides. Il a une maladie grave du foie.
Qu'est-ce que vous comptez faire?
Nous savons tous comment ça va se terminer. On ne peut pas le sauver.
Dans la ville de Faridkot, ce centre médical soigne de jeunes autistes. Tous les jours, des familles désespérées défilent. Comme ce cultivateur de coton, venu avec ses jumeaux autistes. Leurs dernières analyses d'urine révèlent une forte concentration de métaux lourds. Des métaux lourds qui viendraient en bonne partie des pesticides. Le docteur Pritpal Singh, qui vient en aide à ses familles, est révolté. Et il pointe du doigt l'industrie de la mode.
Dans chaque village, on trouve entre 30 et 45 enfants malades. Alors qu'il y a 20 ans, leur nombre était très rare. Quand vous portez un t-shirt, souvenez-vous qu'il est taché du sang de nos enfants.
Majdouline Esbahi, une réaction?
Moi, je dirais que ça témoigne de l'ampleur des conséquences à toutes les échelles qui concernent la santé d'enfants, d'ouvriers agricoles, partout dans le monde. Et finalement, cette question d'échelle nous oblige à dépasser la politique des petits pas. des petites collections, capsules, des petites actions. Il faut vraiment une transformation du modèle économique, du business model de la mode. Et je pense que la mode est bien placée pour réinventer une autre forme d'organisation économique. Parce qu'elle a toujours porté l'avant-garde. Et aujourd'hui, l'avant-garde, c'est une économie qui s'adapte, qui est biomimétique, qui est permacirculaire.
Durable.
Et éthique, durable, et qui répond à ces enjeux-là et qui préserve la vie, le vivant, et on vient de l'entendre, et c'était très émouvant de l'entendre, à quel point ça, c'est concret, ça n'est pas abstrait.
Merci à tous les trois. Majdouline Zbahi, je rappelle le titre de votre livre. Une mode éthique est-elle possible? Édité aux éditions Rue de l'Échiquier. Dominique Cardon, Des couleurs pour les lumières. Antoine Janot, teinturier occitan. Livre paru au CNRS édition. David Santandreux, eh bien, livre en cours, hein, si j'ai bien compris. Merci vraiment. Information, bibliographie, tous les liens, tout ce dont vous avez besoin se trouve sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute bien sûr à votre disposition. Également notre Twitter, hashtag DCAEffet, et puis notre page Facebook. Samedi prochain, nous consacrerons notre émission à la juriste Valérie Cabanès, qui œuvre à l'instauration d'une justice climatique et à la reconnaissance de l'écocide. D'ici là, c'est la suite de votre soirée sur France Culture. Dans un instant, place aux fictions.